Je rends continuellement grâce à mon Dieu en faisant mention de toi dans mes prières, car j'entends parler de l'amour et de la foi dont tu fais preuve envers le Seigneur Jésus et pour tous les saints. Je lui demande que la communion de ta foi devienne agissante et que tu reconnaisses tout ce qui pour nous est le bien en vue de Christ. J'ai eu en effet beaucoup de joie et de consolation à cause de ton amour, car par toi, frère, le cœur des saints a été tranquillisé. Philémon. Ça encore, c'est un exemple pour Paul. C'est quelqu'un qui l'encourage beaucoup. Un amour envers Dieu, envers le Seigneur, envers tous les saints. C'est les deux plus grands commandements, n'est-ce pas? Aimer Dieu de tout son cœur, de toute sa force, de toute sa pensée, de toute son âme, et aimer son prochain comme soi-même. Voilà le genre d'exemple de vie qui encourage Paul. Il ne cite pas d'autres choses, d'autres petites choses, il cite simplement les deux grandes choses qui font que tout le reste va venir. L'attachement au Seigneur et l'amour pour le Seigneur, donc obéir à ses commandements, dont les deux plus grands sont d'aimer le Seigneur et d'aimer son prochain. De même, Paul, en Philippiens chapitre 1, verset 25, encourageait les frères par son exemple. Pour le voir. Qui donc peut encourager par son exemple? Qui donc peut encourager les autres personnes, les autres par son exemple, les frères et sœurs et tous ceux qui sont autour de nous, qui nous regardent? Eh bien, nous. Pourvu que nous restions attachés au Seigneur, que nous ayons cette foi fructueuse dont parle Paul, pourvu que nous restions attachés à cette espérance au Seigneur Jésus, pourvu que nous ayons cet amour pour les saints, cet amour pour le Seigneur qu'on a vu dans les épîtres. Regardons en effet l'exemple des Corinthiens. On pourrait dire, oui, mais moi je suis... ça va pas dans ma vie spirituelle. J'ai beaucoup de luttes en ce moment. Je sais que je suis incapable d'encourager par mon exemple à moi. Donc, qui suis-je pour encourager par mon exemple? Comme je disais au début. Regardons les Corinthiens, l'exemple des Corinthiens. On va pas lire, mais... les Corinthiens, dans la première épître que Paul leur écrit, enfin, la première qui est dans la Bible, il leur fait beaucoup de reproches. Oh là là, ça va pas, il y a de l'immoralité, il y a un gars qui vit avec sa belle-mère, il y a des divisions, moi je suis de Paul, moi je suis d'Apollos, moi je suis de Christ, il y a de la débauche presque pendant le repas du Seigneur, il y en a qui mangent, qui commencent à manger, à boire, à se saouler même. Et puis il y en a d'autres qui arrivent en retard, et puis il n'y a plus rien à manger, donc ils ont faim, et ils ont honte, l'ambiance n'est pas bonne, ça ne va pas du tout, vous faites des procès entre vous, vous vous disputez, il y a de la discorde, ça ne va pas du tout. Il leur fait une lettre où il y a beaucoup de reproches. Cependant, il les appelle quand même frères, parce qu'il a espoir qu'ils vont s'améliorer. Et dans la deuxième lettre, là, tout est changé. Là, il leur écrit, il dit, ah, je suis content, peut-être que j'ai été dur avec vous, peut-être que ça vous a attristé, mais je ne le regrette pas, parce que maintenant je vois vraiment le résultat, je vois que vous êtes repenti, ça vous a amené à la repentance. Et ça encourage Paul. Les Corinthiens ont pu encourager Paul et on voit ce qu'il faisait. On fait pas ça, on peut encourager les autres par notre exemple. Pourvu qu'on essaie de s'améliorer, quel que soit notre niveau actuel, pourvu qu'on essaie de s'améliorer, qu'on reste attaché au Seigneur, on encouragera les autres par notre exemple. Les seules personnes qui peuvent vraiment décourager, ce sont les personnes qui tout simplement abandonnent la lutte, celles qui retournent dans le monde. Là, ça va attrister, c'est vrai. Ça va décourager un peu. Oh non, pas lui. J'aurais jamais cru qu'il aurait laissé tomber. Pourtant, j'avais discuté avec lui, ça... Non, ça décourage. Mais par contre, quelqu'un qui est faible dans la foi, quelqu'un qui continue, qui essaie de venir, qui essaie de lutter, qui dit qu'il est faible, qui se sent vraiment découragé souvent, le fait même qu'elle essaye, ça encourage. Ça, c'est un exemple qui peut qu'encourager. Personne ne stagne vraiment. Soit on progresse, même tout doucement, soit on laisse tomber, mais on ne peut pas stagner. Donc à partir du moment où on reste, petit à petit, même si vous ne voyez pas que vous faites des progrès, le Seigneur agit en vous et vous faites des progrès, à partir du moment où vous restez là. À chaque retraite, chaque année, on voit les personnes qui sont là de nouveau, on regarde les visages, on dit « Ah, ouais, on est ensemble. » Ça encourage, on voit l'exemple des personnes. Il suffit de parler 2-3 mois avec eux. Ah, je vois que tu as changé depuis l'année dernière. Hein. On voit la progression. Quelle doit être notre attitude, notre motivation si nous voulons vraiment encourager les autres, par notre exemple? Ce sera avec ça qu'on terminera. 1 Timothée chapitre 4, verset 12. L'attitude, on l'a déjà vu plus ou moins avec toutes les autres lettres, tous les mots que j'ai un peu soulignés. 1 Timothée chapitre 4, verset 12. Que personne ne méprise ta jeunesse, mais soit un modèle pour les fidèles, en parole, en conduite, en amour, en foi et en pureté. En parole, en conduite, ça c'est l'attitude, la conduite, les paroles, c'est tout ce que les gens peuvent voir de l'extérieur ou peuvent percevoir avec leur oui ou leur vue. Parole, conduite, les paroles, on verra ça tout à l'heure avec Daniel. La conduite, il suffit de lire toutes les épîtres, de lire les évangiles, le Nouveau Testament pour savoir quelle conduite on doit adopter. Mais cette conduite-là, je crois, vient tout seul à partir du moment où on essaie d'avoir de l'amour pour Dieu et pour le prochain. On ne voudra pas leur faire de mal. Amour, le mot vient en troisième. En parole, en conduite, en amour, en foi, qui est peut-être la chose qui va guider tout le reste. Car si on a la foi envers le Seigneur Jésus-Christ, si on met notre confiance en Dieu, à ce moment-là, le reste va venir, logiquement, et en pureté, des sentiments purs. Philippiens chapitre 3, versets 12 à 14. C'est Paul qui parle. Paul qui était si encouragé par l'exemple d'autres frères. Paul qu'on avait tendance peut-être à idéaliser, à mettre sur un piédestal. Et qu'est-ce qu'il dit Paul aux Philippiens ? Ce n'est pas que j'ai déjà remporté le prix ou que j'ai déjà atteint la perfection, mais je poursuis ma course afin de le saisir, puisque moi aussi, j'ai été saisi par le Christ Jésus. Frère, pour moi-même, je n'estime pas encore avoir saisi le prix, mais je fais une chose. Oubliant ce qui est en arrière et tendant vers ce qui est en avant, je cours vers le but pour obtenir le prix de la vocation céleste de Dieu en Christ Jésus. Paul était motivé, il avait été saisi par le Christ. C'est vrai que c'était peut-être un peu spécial, il avait vu le Christ vraiment sur le chemin de Damas. Il avait été saisi, c'est comme s'il avait vu, puis il avait tremblé, et puis il s'était dit, waouh, désormais j'abandonne tout le reste, je laisse tout ça en arrière, pharisien et persécution de l'Église. J'ai vu Christ, maintenant je crois, je suis saisi et je vais de l'avant. C'est vrai que quand on lit les épîtres, je pense que c'est Paul qui montre vraiment le plus de zèle pour vivre sa foi. Il est incroyable, Paul. Et ce qui est intéressant, c'est qu'ils disent vraiment qu'il n'a pas encore atteint la perfection. Et pourtant, il se permet de dire en Philippiens, chapitre 3, verset 17, juste après, « Imitez-moi. Soyez mes imitateurs, frères. Portez les regards sur ceux qui marchent selon le modèle que vous avez vu en nous, que vous avez en nous. Soyez mes imitateurs. » Et pourtant, il dit qu'il n'a pas atteint la perfection. Donc ça nous met la puce à l'oreille. On peut être encouragé par l'exemple de personnes, même, et je le répète, s'ils n'ont pas atteint la perfection, sinon on sera encouragé par personne, puisque personne ne l'a atteint. Paul avait de l'enthousiasme, il était zélé, il courait. Il ne dit pas je vais vers l'avant, tout doucement, comme ça, j'essaye d'avancer un petit peu. Il court, c'est carrément la course du sportif. C'est un sprinter, c'est pas un coureur de fond. Il court vers l'avant, et il ne s'arrête pas de courir avant d'avoir atteint le but. Quel que soit son niveau, pourtant il dit « imitez-moi ». On sent vraiment que Paul a été saisi par le Christ. Et pourtant, il dit, j'ai pas encore atteint la perfection, je cours. Je regarde même pas en arrière pour dire, waouh, c'est pas mal ce que j'ai fait là quand même, hein, j'ai bien avancé. Non, il continue à courir de peur de s'enorgueillir. Paul était un modèle, un exemple de zèle, pourtant il courait encore. Telle doit être notre attitude, je pense. Nous courons vers la perfection, nous poursuivons notre course vers le but, sans vouloir plaire aux autres, sans vouloir être un exemple, et nous serons un exemple. Et nous, les autres verront en nous quelqu'un qui essaye de vivre sa foi, d'aller vers l'avant. Telle est l'attitude qui encouragera. Cela ne veut pas dire, bien sûr, qu'il ne faut pas s'occuper des autres. Bien sûr qu'il faut s'occuper des autres. Puisqu'on court, non pas simplement pour nous-mêmes, mais on court pour Dieu. Et si on court pour Dieu, à ce moment-là, on fait attention à ceux qui sont autour de nous. Mais non pas pour être un exemple pour dire, voyez, je cours et je suis un exemple, hein, regardez-moi, comme un coureur qui court sur la piste et qui salue en même temps le public. Mais nous savons que si nous sommes un exemple, si nous vivons notre foi, si nous courons vers le but, vers la perfection, pas besoin de savoir si les autres nous voient à côté. Ils nous voient et ils savent, ils voient bien qu'on est en train de vivre notre foi. Pourvu que nous la vivions avec sincérité. Quelle doit être notre motivation? Nous avons vu l'attitude, conduite, parole, amour, foi, pureté, courir sans s'arrêter. Quelle doit être notre motivation? 1 Timothée chapitre 4, versets 8 à 10. 1 Timothée chapitre 4, versets 8 à 10. Exerce-toi à la piété, car l'exercice corporel est utile à peu de choses, tandis que la piété est utile à tout. Elle a la promesse de la vie présente et de la vie à venir. C'est une parole certaine et digne d'être entièrement reçue. Nous travaillons et luttons parce que nous avons mis notre espérance dans le Dieu vivant, qui est le sauveur de tous les hommes, surtout des croyants. Nous travaillons et luttons parce que nous avons mis notre espérance en qui? Dans le Dieu sauveur. Ça, c'est notre motivation. Dans la Nouvelle Alliance, c'est plus « fais ceci, fais cela, et tu auras quelque chose, tu auras une promesse. » C'est « tu es sauvé, je te donne le salut, tu ne mérites pas de toute façon, je te donne le salut, c'est ce que Dieu dit, et maintenant que tu es sauvé, agis en fonction de ton salut. Je t'aime, maintenant que je t'aime, sois l'exemple, vis pour moi. » Et c'est non pas quelque chose que nous devons faire, mais c'est quelque chose que nous sommes appelés à faire, que nous sommes invités à faire. À partir du moment où nous acceptons la grâce de Dieu, volontairement, il n'y a plus de problème. Si déjà nous acceptons la grâce de Dieu volontairement, après ça devient plus facile. Si nous l'acceptons par peur en disant « je ne peux pas faire autrement », non. Mais là, c'est une invitation, on vient au banquet, et puis une fois qu'on est venu au banquet, ben, on mange, puisqu'on est là pour ça. Donc, Dieu nous invite à vivre pour lui, nous vivons pour lui. Ça paraît simple, et une fois qu'on vit pour lui, ben, ceux qui nous regardent voient qu'on vit pour lui, et ils sont encouragés. Pas notre exemple. L'espérance qui est en Dieu. Notre foi doit être le moteur. Non pas l'envie de paraître, mais simplement le fait que nous sommes, ou l'envie d'être. Notre amour pour Dieu, pour les frères et sœurs, tel est l'amour qui animait les Éphésiens. Regardons encore en 1 Thessaloniciens, chapitre 4, versets 1 à 4. Au reste, frères, nous vous le demandons et nous vous y exhortons dans le Seigneur Jésus. Vous avez appris de nous comment vous devez marcher et plaire à Dieu. D'ailleurs, vous le faites. Eh bien, progressez encore. Vous savez en effet quelles recommandations nous vous avons données de la part du Seigneur Jésus. Ce que Dieu veut, c'est votre sanctification. C'est que vous vous absteniez de l'inconduite. Que chacun de vous sache tenir son corps dans la sainteté et l'honnêteté. Voilà ce que Dieu veut. Voilà ce que Dieu veut, voilà ce que nous devons faire, voilà ce que nous sommes appelés à faire, invités à faire, si nous voulons plaire à Dieu, et non pas plaire aux hommes. Mais si nous faisons cela pour plaire à Dieu, à ce moment-là, les autres seront encouragés par cette attitude, par un tel exemple. Et pour tous les petits détails, bien sûr, c'est vrai qu'il y a des fois où il faut savoir exactement que faire, et tout ça c'est écrit bien sûr dans la parole pour nous guider, pour nous aider. Ainsi, nous pouvons encourager les autres dans tous les domaines, toutes les petites tâches, mettre le couvert, aider, même si ce n'est pas notre tour, à notre tour, à notre couleur de faire, apporter un bol, donner un bonbon, comme disait un frère dans une prière, toutes ces petites démonstrations d'amour, offrir un petit cadeau, et les sacrifices de temps, écouter, tout ce que nous avons vu jusqu'à présent, toutes ces démonstrations qui encouragent les autres, prier avec, tout ça c'est le comportement, c'est l'exemple, l'attitude saine que Dieu nous demande, saine et simple que Dieu nous demande d'avoir. Vous le faites déjà, disait Paul aux Thessaloniciens, et bien progressez encore. Donc nous sommes encore une fois appelés à progresser. Peut-on avoir de l'orgueil lorsque on sait quand même que les gens nous regardent, que les gens nous félicitent pour quelque chose qu'on a fait de bien, ça arrive parfois. Est-ce qu'on peut s'enorgueillir? Est-ce qu'on peut risquer de dire ou d'avoir de cette espèce de fausse modestie qui est encore pire, de dire oh non, c'est rien. Alors qu'on sait très bien qu'on a fait quelque chose, qu'on a fait un effort, qu'on a fait quelque chose de bien. Ça, c'est peut-être une question qu'on pourra discuter tout à l'heure dans les discussions. Si nous progressons, si nous nous améliorons grâce au Seigneur, si nous sommes motivés par le désir de vivre pour lui, maintenant qu'il nous a sauvés, alors nous encouragerons les autres par notre exemple de foi, d'amour, d'attachement au Seigneur, de fermeté en Christ. Disons pour terminer ce que Paul dit et ce que nous pouvons peut-être tous dire, bien qu'il y ait certains mots qui devraient changer. Paul dit à Timothée, en 1 Timothée chapitre 1, verset 12, et on terminera avec ça. J'aime bien ce passage parce qu'il parle de Paul, et je crois que Paul fait partie des hommes après Christ qui vraiment pourraient paraître prétentieux lorsqu'on lit ses épîtres, quand il dit « Imitez-moi, regardez-moi, faites sur moi, je n'ai pas besoin de lettres de recommandation. » C'est vrai qu'il paraît un petit peu, parfois, aux images, quand même, il dit tout ça. Et puis, et pourtant, il dit qu'il n'a pas encore atteint la perfection. Donc, je ne pense pas que ce soit de la prétention, mais simplement peut-être de la sincérité. Mais ça ne s'arrête pas là. 1 Timothée chapitre 1, verset 12 à 17, et j'arrêterai avec ça. Si nous craignons de nous enorgueillir, n'oublions pas que c'est Dieu qui nous fortifie, que nous devons tout cela à Dieu. Et que si nous sommes quelque chose aujourd'hui, si nous pouvons être fiers de ce que nous sommes, mettons notre fierté en Christ Jésus et rendons-lui à lui seul la gloire. Je rends grâce à celui qui m'a fortifié, le Christ Jésus notre Seigneur, de ce qu'il m'a aimé, estimé fidèle en m'établissant dans le service, moi qui étais auparavant un blasphémateur, un persécuteur, un homme emporté. Mais il m'a fait miséricorde parce que j'agissais par ignorance, dans l'incrédulité. Et la grâce de notre Seigneur a surabondé avec la foi et l'amour qui est en Christ Jésus. C'est une parole certaine et digne d'être entièrement reçue que le Christ Jésus est venu dans le monde pour sauver les pécheurs, dont je suis, moi, le premier. Mais il m'a été fait miséricorde afin qu'en moi, le premier, Jésus-Christ montre toute sa patience pour servir d'exemple à ceux qui croiront en lui pour la vie éternelle. Au roi des siècles, immortel, invisible, seul Dieu, honneur et gloire au siècle des siècles.